France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le cauchemar, au moment où le prof de gym demande à deux grandes gueules de la classe de choisir leur coéquipier avant un match de foot. Vous vous revoyez, petit, pourvu qu'on me choisisse. L'humiliation, quand il reste que vous, vous finissez dans une équipe évidemment par défaut, tous les autres font la gueule, vous savez que personne vous passera le ballon, et de toute façon, vous vous ferez engueuler si vous le renvoyez de travers. Vous vous revoyez, petit, suppliez vos parents de vous faire un mot pour pas aller à la piscine. Rêvez de vous casser le bras pour éviter de courir autour d'un stade. Il devrait y avoir un club, des grands brûlés, des cours de PS. Alors on rigole un peu, j'espère d'ailleurs que ce sera le cas jusqu'à 20h, mais nul en sport quand on est petit. Ça parle aussi de difficulté à comprendre ou à supporter les mécaniques de groupe, ça parle d'exclusion de facto, simplement parce qu'on a des lunettes, qu'on est considéré comme l'intello de la classe, qu'on se fait charrier quand c'est pas harcelé d'ailleurs, qu'on a quelques kilos de trop. Le sport, c'est aussi se déshabiller devant les autres. On parle donc de rapport au corps et ces traumatismes-là. Si on n'y prend pas garde, on les trimballe dans son sac à dos, même à l'âge adulte, parce que certes, au moins, vous n'avez plus à subir le banc de touche, mais partout, on vous explique qu'il faut être en bonne santé, qu'il faut faire du sport, qu'il faut courir, qu'il faut nager, qu'il faut mettre vos performances dans une appli, et cette injonction-là, elle est partout. Alors venez à nous, vous les traumatisés des cours de sport, ceux qui n'ont jamais su faire la roue, jamais marqué un panier, passer votre scolarité à boire la tasse, appelez-nous les angoissés du survêt, les malmenés de la poutre, mais peut-être que ces traumatisés de l'enfance que vous êtes sont devenus des sportifs décontractés finalement qui ont trouvé leur rythme et leur activité plaisir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Sébastien, vous êtes avec nous, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben, c'est marrant, on aurait dit que c'était moi que vous décriviez là. Ouais. J'ai vécu ça parce que j'étais celui qu'on appelait Bouboule à l'école, voilà. Et en particulier au collège où j'avais une prof de sport vraiment, je pense qu'elle était ancienne militaire, tellement c'était désagréable et dénigrante. Bon, c'est vrai que maintenant on aurait peut-être considéré ça comme du harcèlement, mais à l'époque, quoi, c'était juste, de toute façon, on ne sera pas capable de sauter les haies. Et puis, alors moi, c'était pas au foot, mais c'était l'équipe au handball, où j'étais toujours le dernier choisi. Et puis, c'est marrant, j'étais toujours dans les buts, parce que vous savez, les cages de hand, elles sont toutes petites.
Bien sûr.
Moi, vu que j'étais gros, c'était du coup moins facile pour les autres de marquer des buts. Mais malheureusement, j'étais aussi nul
mais
au gardien.
Coup, ça vous a dégoûté du sport, Sébastien, ou est-ce qu'il vous a fallu un moment, j'imagine qu'à ce moment de soulagement, où je suis plus obligé, quel bonheur. Et puis finalement, on y retourne. C'est quoi votre parcours à vous après, en fait ?
Eh ben, c'est vrai que ça m'a toujours. Mon parcours scolaire, j'ai jamais aimé le sport. J'ai trouvé aucun sport dans lequel m'épanouir. Et puis, depuis, j'ai 49 ans. Mmh. Ça fait une dizaine d'années que je m'épanouis dans le trail, en fait. J'ai trouvé mon sport, enfin.
Dis donc. Puis alors, vous n'avez pas choisi le truc de tout repos. Vous faites du trail.
Ouais, c'était le plus facile aussi, le plus compatible avec mon métier, vu que je suis toujours sur la route. Du coup, je me dis, une paire de baskets et puis un short et hop, c'est dans la voiture. Parce que c'est compliqué, sinon, d'être dans un club de sport, il faut être là tous les mardis.
Je vois bien ce que vous dites. Ouais, merci beaucoup, Sébastien, pour ce premier témoignage. C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui sont... je peux vous dire qu'au standard des traumatisés du sport, vous secouez un arbre, il en tombe 10. Mais il y en a beaucoup qui sont retournés, un peu comme Sébastien, pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Guillaume Ditch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en STAPS, vous êtes agrégé de PS, vous avez écrit plusieurs livres. Le dernier s'appelle « La France n'est pas un pays de sport » avec un point d'interrogation, ce que le sport dit de notre société aux éditions de Boxe Supérieure. Il y a Claire Pétain qui est avec nous, bonsoir. Ou
bonsoir.
Pétain peut-être. Non,
on vous met ça
un accent
Pétain,
ou pas
Pétain,
comme importe. Vous voulez. Vous êtes psychologue clinicienne. Et puis Cécilia Desharcé est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste, Cécilia, et c'est vous qui avez réalisé un petit docu qui s'appelle « Niveau zéro, histoire de nul en sport ». Je dis petit parce qu'il fait 30 minutes en fait, mais fort intéressant. Il est disponible sur le site de Mediapart et c'est grâce à vous qu'on a eu l'idée de faire ce sujet justement en voyant votre documentaire. Guillaume Ditch, est-ce que vous avez un peu les oreilles qui sifflent, vous, le prof de PS, et est-ce que vous vous dites donc, on en a raté des moments en fait, peut-être dans une autre manière d'enseigner le sport, j'en sais rien, est-ce que c'est encore le cas d'ailleurs ?
Oui, alors pour moi il y a deux choses. Déjà votre auditeur parle de l'époque, donc il y a une évolution tout de même de cette discipline EPS. Qui aujourd'hui justement est bien conscient de ces questions de rapport au corps, Sauf qu'il y a une difficulté dans ce cours de PS, c'est que le corps est exposé, notamment dans une période, l'adolescence, une construction identitaire, des transformations morphologiques, la nécessité aussi de travailler, de faire un sport en mixité. Il y a un deuxième élément, tout de même, parce que déjà, ça existe, hein, bien sûr. On a aujourd'hui, les derniers chiffres de l'éducation nationale rappellent que vous avez 75% des élèves qui apprécient le cours de PS, mais pour autant, bien sûr, c'est une réalité aussi. Vous avez 20-25% des élèves qui ont ces difficultés. Il y a un deuxième élément qui est intéressant. Votre auditeur a repris une pratique, mais une pratique intensive, le trail à l'âge adulte. Et comme vous l'avez précisé, c'est une tendance qui, en fait, qui est assez actuelle en France, mais qui s'explique. C'est aussi que, à ce moment, au collège, dans le dégoût de la pratique sportive qui peut se créer à travers le cours de PS à l'école, il est aussi le fait du modèle sportif en France. Vous avez un décrochage de la pratique sportive autour de 11-12 ans. Aussi parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils aspirent au plaisir, à la santé, mais la santé mentale, se défouler, ou encore la convivialité. Et la compétition, la performance, peut-être ce qu'on a connu dans les générations précédentes du cours de PS, c'est quelque chose qui ne les attire plus. Voilà pourquoi on a des adultes un peu plus âgés qui ensuite, après cet abandon de la pratique sportive, vont la reprendre et parfois de manière intensive.
On en a un de prof au standard, on va le prendre dans un instant. Claire Pétain, moi ce qui me frappe, et dans tous les témoignages qu'on a, très souvent, c'est ce moment que j'ai décrit au début, d'ailleurs, on choisit les équipes. Et c'est fou comme 20 ans, 30 ans, 40 ans après, on s'en souvient encore, ça marque toujours. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui marque, à votre avis ?
C'est l'exposition au regard des autres, c'est l'humiliation. Je vais être choisie en dernier, je suis le boulet, je suis nulle. Et on sait que ça va se reproduire, en fait, à chaque fois. Ça peut être extrêmement traumatisant parce qu'en effet l'adolescence c'est une période pendant laquelle se construit l'estime de soi, notamment à travers le regard des autres, donc c'est normal que ce soit marquant en fait.
Je vais finir ce tour de table avec vous, Cécilia Dercé. Est-ce que c'est parce que vous aussi vous étiez une traumatisée du sport que vous avez eu envie de faire ce documentaire, et surtout du coup la question suivante c'est, est-ce que vous avez eu beaucoup de mal à les trouver, vos sujets, ou finalement pas du tout en fait?
Merci déjà beaucoup de m'inviter, et écoutez, oui bien sûr, ça vient d'une initiative personnelle et intime, parce que j'ai été traumatisée par le sport, mais je crois que c'était surtout l'envie de parler du fait que le fait d'être nul en sport, pour moi, était un révélateur de marginalité à plein d'autres endroits, que essayer de comprendre justement quel était ce profil. Et paradoxalement, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui détestaient le terme en l'entendant et me disaient « Ah non, pas du tout, j'aurais pas du tout envie de participer à un documentaire qui parle de ça », et d'autres qui, au contraire, étaient enthousiasmées et disaient « Ça, c'est moi, j'ai absolument envie de parler, je me sens complètement représentée par le titre ».
Scotché, Cécilia, c'est que l'un de vos personnages, vos interlocuteurs, a le dos tourné, donc il parle anonymement. Et je me suis dit, waouh, un sujet sur le sport. Enfin, voyez ce que je veux dire. C'est pas non plus comme si on révélait des secrets d'État, quoi. Et donc le fait que le trauma encore soit si haut qu'on montre pas son visage, je me suis dit, dis donc, voilà quelqu'un qui a été abîmé quand même.
Oui, effectivement, il a souhaité témoigner de manière anonyme. Et je comprends aussi qu'on n'ait pas envie de passer devant une caméra que sa parole soit diffusée. Mais je pense que c'était surtout parce qu'il avait très très honte de ses souvenirs et qu'il ne voulait pas être défini par ça. Il y a quelque chose qui colle à la peau dans cette identité aussi. Ouais. Et soit on s'en empare et on en fait une force un peu, comme certains le font. Soit au contraire, on essaie de s'en détacher au maximum.
Mais... J'ai entendu le mot honte et j'ai entendu le mot colle à la peau. Je voudrais qu'on écoute Aude avant de reprendre. Vous repreniez la parole. Bonsoir Aude.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On vous écoute Aude.
Oui, alors j'ai voulu témoigner en tant qu'ancienne traumatisée du sport. Ce que vous racontiez, c'est exactement moi en fait. J'aime pas parler en public, mais quand vous avez annoncé le sujet, je me suis dit c'est tout à fait moi, faut que j'appelle. J'étais dans les deux, trois dernières à être choisie quand il y avait des équipes et des capitaines qui choisissaient les personnes, et en effet ils faisaient tous la tête quand ils voyaient qu'il restait que moi. J'étais dans les deux de la classe qui n'arrivaient pas à sauter un mètre au saut en hauteur, d'ailleurs à une période où à l'adolescence j'étais pas bien dans ma peau, je me voyais beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Je pensais que alors que je n'étais pas du tout, je me voyais grosse et je pensais que je n'étais pas capable de faire du sport. C'était vraiment la catastrophe. Hein. Les cours de sport, collège, lycée, pour moi, c'était pire que tout. Et puis avec le recul, je me suis rendu compte que tout ça, c'était, pour moi, c'était clairement lié à une confiance en moi qui était très faible. Et aujourd'hui, bon bah, j'ai plus de 40 ans, donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai repris le sport. Alors, je suis pas une sportive haut niveau, mais je fais du sport. J'y prends goût. Ça me fait du bien physiquement, mais je me rends compte aussi du bienfait sur la santé mentale du sport. Mmh. Et donc moi, j'ai deux enfants et pour moi, ça a été hyper important dès leur naissance de leur donner confiance en eux pour que bah pour différentes choses et notamment pour le sport. Et je pense que ça joue quand même pas mal. J'ai une fille qui est née, donc quand elle est rentrée au collège, je me dis les cours de sport au secours. Et en fait non, elle s'éclate, elle adore, elle a une super moyenne en sport, donc je suis trop fière d'elle. Et je pense quand même que tout ça, au niveau de l'adolescence, enfin au moment de l'adolescence, je pense que quand même les qualités sportives, c'est quand même lié aussi à la confiance en soi. Et je crois en effet que les cours de sport sont plus ce qu'on a vécu à notre époque, j'ai l'impression.
J'espère.
En tout cas, elle y prend
j'espère.
Beaucoup de plaisir.
Il y a Guillaume Ditch qui fait « bah oui, attendez, c'est bon, enfin, traitez-nous de vieux, Guillaume Ditch ». Mais c'est marrant, comme cela dit, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est vraiment... la discipline où on les voit les failles, en fait. Il n'y en a pas d'autres où on peut les voir aussi bien que ça. On peut être traumatisé des maths, exactement, mais on peut se cacher quand on est traumatisé des maths, pas quand on est au bord de la piscine en maillot de bain, ça c'est sûr.
Oui, je pense qu'il y a un parallèle à faire alors, avec les mathématiques ou autres, parce que cette humiliation dont on parle, lorsqu'on est dans un cours de maths et de français et que l'enseignante classe les notes et vous attendez, lorsque vous n'êtes pas forcément le bon élève, vous attendez de recevoir votre
c'est
copie.
Pas bien cette
c'est
manière de
tout
faire, je
autant me ouais, ouais, et atroce, j'ose espérer, je crois profondément, que les enseignants ne le font pas, ou ne le font plus, en tout cas. C'est aussi parce qu'on est aujourd'hui à l'image de la société, on est dans une société qui doit être plus inclusive. Et le cours de PS, oui, à travers le corps, on expose ces difficultés, et c'est ce qui amène les formes de traumatisme. Le choix d'équipe, il est assez emblématique, il revient souvent.
Sûr, ouais. Mais ça existe encore, ça, honnêtement.
Non, ça n'existe plus, en tout cas, je suis
c'est-à-dire
aujourd'hui...
C'est-à-dire de laisser les gamins choisir leur équipe.
Aujourd'hui, je suis formateur justement depuis plus de 10 ans des enseignants d'EPS. C'est un phénomène de comparaison sociale qui a été bien étudié par la psychologie sociale, psychologie du sport. Et évidemment que c'est à l'enseignant, c'est une compétence professionnelle. Plus que de choisir, c'est surtout de réfléchir à un collectif qui peut permettre à chaque élève d'être inclus et de pouvoir être dans un climat sécurisant, bienveillant, pour pouvoir s'engager malgré ses difficultés. Et ensuite, il y a un deuxième élément. Votre auditrice, elle a parlé d'une performance, le fait de ne pas être capable, je ne sais plus, de réaliser un saut.
Un mètre.
D'un mètre. Là aussi, la performance brute, c'est pas ce qui est évalué en EPS.
Non.
On est sur une performance qui est référée à soi, ses capacités, ses ressources, et on se centre sur les progrès.
Mais je me suis juste demandé pourquoi on était toujours noté en sport. Enfin, je vois pas bien l'intérêt d'être noté, parce qu'on est forcément inégaux de toute façon devant le sport.
Oui, alors.
De fait, il y a des catégories dans tous les sports, il y en a pas dans une classe, heureusement. Donc pourquoi est-ce qu'on est noté? C'est quoi l'idée?
C'est très français, c'est lié à la culture française. Alors aujourd'hui, on évalue davantage des compétences. Mais pour autant, on a un système éducatif. On a aussi des grandes écoles à l'université, un système parfois élitiste, des parents aussi qui demandent justement la note. Donc on voit comment cette
même
tradition française, et même en éducation physique et sportive, et parfois à l'inverse, des parents ne comprennent pas justement le fait que leurs enfants ou un élève n'aurait pas une note, une bonne note ou une note excellente. Mais encore une fois, on n'évalue pas des performances sportives. On ne forme pas des sportifs de haut niveau. En mathématiques, on ne va pas former la médaille Fields ou des écrivains au prix Goncourt. C'est des compétences sociales, méthodologiques pour analyser, comprendre par le corps. Et surtout quand même des compétences motrices, et les jeunes en ont besoin.
Ce que je trouve intéressant, Claire Pétain, c'est que effectivement, au fond, et y compris les parents d'ailleurs, mettent la même pression et le même poids dans soit bon en maths, soit bon en français, soit bon en sport. Effectivement, capable de se retourner vers le prof en disant, mais enfin, mon fils court vite, comment ça se fait? Comment ça se fait que donc cette idée, ce qui peut amener ces traumas, cette idée de compétition, on se la crée quand même. On est aussi tout à fait capable de se la créer en fait.
Est-ce qu'on va se dire que notre valeur dépend de notre performance, en fait. Mais je voulais revenir sur la question de l'enjeu identitaire. En fait, l'exemple du cours de maths, ok, mais le sport, ça engage son identité de manière beaucoup plus globale. Et on parle du système de notation, mais ce qui est traumatisant, en tout cas moi, ce que j'entends de la bouche de mes patients, c'est pas la note, en fait, c'est l'expérience du cours de sport. C'est pas comment j'ai été évaluée par mon prof. C'est la manière dont j'ai été humiliée.
Ouais.
C'est le mon rapport à moi-même et mon rapport aux autres. Le traumatisme, il vient de là. J'ai eu l'impression d'être nulle. Alors, et on parle plus, évidemment, des expériences de sport collectif.
Exactement. Et alors, on va y venir, d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement l'expérience du sport collectif. En fait, il y a le sport collectif, c'est le rapport aux autres. Et puis, le sport individuel, c'est le rapport à la performance. Enfin, il y a ces deux choses-là qui reviennent souvent. On écoute Quentin, d'abord. Bonsoir, Quentin.
Oui, bonsoir, Fabienne.
On vous écoute, Quentin.
Oui, alors j'appelais parce que effectivement, je crois qu'un petit peu comme tous les invités, pas les invités, mais les auditeurs qui sont passés ce soir, j'ai été un peu aussi traumatisé du sport au collège, avec des problématiques de harcèlement qui en plus se rajoutaient. C'est pour ça ce que disait votre invité justement à l'instant était très intéressant. C'est vrai que c'est beaucoup plus, je pense, c'est pas tellement le prof, c'est beaucoup plus le rapport aux autres élèves qui fait qu'il y a ce traumatisme qui s'entretient. À titre personnel, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je ne parviens pas à pratiquer une activité physique. Et alors, je suis professeur moi-même, donc j'ai constaté aussi, comme disait mon collègue tout à l'heure, une évolution, notamment chez les plus jeunes collègues. Je serais peut-être un tout petit peu moins optimiste que lui en voyant les profs, forcément il y a des profs assez anciens avec des vieilles habitudes qui persistent. Oui, je suis prof d'anglais également et en fait j'ai fait pas mal de voyages à l'étranger, de séjours notamment, j'en ai fait un aux Pays-Bas où j'avais assisté à une séance de PS par un collègue professeur néerlandais et je voyais que là-bas on était beaucoup moins axé sur le sport compétition. C'est un peu sous cet angle-là qu'on promeut le sport en France, en tout cas qu'on promouvait le sport en France. Et on était beaucoup plus dans un sport plaisir qui est beaucoup plus constructif et inclusif. Donc je voulais savoir s'il y avait effectivement une évolution dans les pratiques d'enseignement de cette manière-là.
C'est pour vous, Guillaume Ditsch. Merci beaucoup pour cette question, Quentin. C'est pour vous,
oui,
Guillaume Ditsch.
Le parallèle avec le Pays-Bas est intéressant. Là aussi, je pense que c'est une idée reçue. Aussi parce que... politiquement, dans le débat public, on laisse davantage la parole effectivement aux sportifs de haut niveau. Et cette confusion entre l'EPS et le sport perdure. C'est un cours d'éducation physique et sportive. Donc dans cette idée, ça fait au moins plus de 20 ans justement que dans EPS, il y a d'abord l'enjeu d'éducation. Donc à travers le sport collectif, vous avez raison, c'est un exemple intéressant. Ça passe aussi par des apprentissages. On forme des citoyens aussi en EPS. Donc il y a des apprentissages par la coopération, l'acceptation de l'autre, mais des corps des autres, aussi par la mixité. Et là, je pense que c'est... Enfin, j'en suis certain, c'est une idée reçue, cette dimension compétitive, justement. Au contraire, on est davantage sur une EPS qui est dans de la coopération. Et vous avez raison d'insister sur cette question du rapport à l'autre et du corps. C'est encore une fois la compétence de l'enseignant, de pouvoir pas simplement être bienveillant, mais accompagner de manière positive les jeunes, dépasser parfois des peurs, dépasser des obstacles pour, en fait, construire des petites réussites. C'est finalement essayer de progresser étape par étape. Mais peut-être qu'il y a aussi une difficulté, et l'auditeur professeur d'anglais le sait certainement mieux que moi, c'est que vous avez des classes de plus en plus surchargées. 25 élèves avec des problématiques et des élèves à besoins éducatifs très particuliers, au lycée 35 élèves. C'est ce qui met en contradiction et parfois qui culpabilise aussi les enseignants. C'est qu'ils font de leur mieux parfois pour inclure l'ensemble des élèves. Et pour autant, ces injonctions un peu paradoxales font que on peut, et justement je remets pas en cause ces traumatismes qui perdurent.
Cécilia DRC, il y a quelqu'un dans votre documentaire qui parle de cette incapacité en fait au groupe, et effectivement chacun son rythme pour avoir la capacité au groupe. Ce que j'ai trouvé assez intéressant et qui va avec certains de nos auditeurs, mais pas tous, c'est aussi que les adultes qui sont devenus aujourd'hui, certains ont fini par trouver quelque chose qui leur convient. Mais ce n'est pas la majorité concernant vos interlocuteurs, Cécilia DRC. Donc c'est un trauma longue durée, en fait, si j'ose dire.
Je ne sais pas, je ne dirais pas en tout cas que les personnes que j'ai interviewées, en tout cas, elles ne se positionnaient pas toutes comme détestant le sport. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on parlait finalement pas que du sport, du sport.
C'est même le prétexte, on est d'accord là-dessus.
Oui, c'était plutôt un prétexte, effectivement, et de voir justement quels étaient tous les points communs entre toutes ces personnes. Il y a une enfant aussi, malheureusement, j'en ai qu'une seule, qui témoigne. Et en tout cas, ce que j'ai l'impression qui réunissait pas mal ces personnes aussi, c'était l'endroit difficultés avec des formes d'autorité, disons, ou en tout cas avec des injonctions qui ne faisaient pas sens pour elles ou eux. Très souvent, c'était parce qu'on leur disait « il faut faire ça » sans leur expliquer pourquoi. Pourquoi fois, il faut réussir à faire ce mouvement et qu'ils n'y arrivent pas et qu'il n'y avait absolument aucun cadre pour leur dire bah, peut-être que si tu n'y arrives pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faudra qu'on te l'explique mieux ou qu'on voit s'il y a une de tes compétences physiques du coup, qui ne te le permet pas. Enfin bref, en tout cas, j'ai l'impression que c'est à ces endroits-là sur lesquels il y avait énormément de frustration et de résistance. Et après, dans les pratiques individuelles de chacun, chacune, bah, en fait, finalement, la plupart avaient plutôt un rapport apaisé aujourd'hui.
Vous vous êtes remis, vous, ou pas, Cécilia ? Vous vous y êtes remis,
moi,
ou
sport,
pas ? Ouais.
Ça dépend desquels, mais en tout cas, je suis...
et ça dépend des jours.
Oui, ça dépend des jours et ça dépend desquels, mais en tout cas, je n'ai pas une pratique sportive régulière, ni comme activité qui définit ma vie, mais en tout cas, je fais très souvent de la randonnée. Enfin, voilà, j'ai joie à... Il a... mouvoir mon corps.
Claire Pétain, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est jusqu'à quel point, effectivement, parce que là, ce sont des adultes qui nous appellent tous, évidemment, et qui se souviennent tellement de ça. Je voudrais savoir jusqu'à quel point vous vous en rendez compte, vous, dans votre travail quotidien, jusqu'à quel point on le transporte dans son sac à dos, ce vieux trauma de l'enfance, du moment où on est choisi, du sport co, ou de la performance du sport individuel qu'on n'arrive pas à accomplir.
Alors évidemment, bah, ça va être des personnes qui viennent me voir pour des problématiques de confiance en elles, de difficultés à être en relation avec les autres, dans la comparaison en permanence, la peur d'être dans l'échec aussi, beaucoup.
Est-ce que ça vient vite, en fait, quand on vous consulte ? Je me souviens que, quand j'étais gamin, au cours de sport, bon, est-ce que ça vient vite ou est-ce qu'il faut aller le chercher ?
Ça dépend. Il faut quand même, en général, aller le chercher. Il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'instaure, mais on passe forcément par l'enfance. Ce qui est très à la mode, c'est les challenges sportifs en ce moment. Et donc, à cette occasion, c'est vrai qu'il y a des patients qui peuvent, des personnes qui peuvent me dire que c'est assez étonnant qu'elles puissent se lancer dans ce type d'expérience alors qu'elles détestaient le sport. Bon, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas un sport collectif, par exemple, de courir un marathon ou de faire un trail ou faire un 10K. Donc, il y a quand même cette tendance pour ces traumatisés du sport à retourner vers le sport, mais vers une activité physique, mais pas un sport collectif. C'est-à-dire, il y a quand même des stigmates qui font qu'on va toujours avoir cette difficulté à s'exposer au regard de l'autre.
Il y a aussi l'inverse. Je suis en train de regarder les messages qui tombent sur WhatsApp et je le trouve sympa, le message de Jean-Patrick qui dit « Le tirage au sort des équipes, c'était aussi la revanche. L'heure de gloire hebdomadaire de celui qui dormait le reste du temps au fond de la classe près du radiateur, celui qui était plus costaud que les autres parce qu'il avait 2 ans de retard, mais justement, il existait en cours d'EPS et lui vivait ce traumatisme d'humiliation pendant les autres cours et c'est à ce moment-là qu'il était le leader. » Et c'est fou ce que ça trimballe la gym, Guillaume Ditch, en fait.
Oui, mais et ça, on voit bien comment la tradition française, le fait de séparer le corps et l'esprit, amène encore aujourd'hui un vrai sujet. Pour moi, pas tant sur la place de l'EPS à l'école, mais plutôt la place du corps à l'école. On est aussi dans un moment, on a une génération de jeunes de plus en plus sédentaires, aussi en inactifs physiquement, donc avec des difficultés très vite, dès l'enfance, en termes d'habileté motrice, donc potentiellement ensuite au collège, à l'adolescence, des pratiques de baisse de confiance et d'estime de soi. Ce que ça dit, autant pour le cours de maths que le cours d'EPS, c'est que la nécessité, c'est faire vivre des expériences positives. C'est à partir de là que vous pouvez construire ce qu'on appelle des compétences psychosociales, l'estime de soi, la confiance en soi, on en a parlé, mais aussi simplement l'idée de coopérer, aller vers l'autre, oser aussi, effectivement, faire un marathon plus tard. Ça, ce sont des compétences qui se construisent, mais tout au long de sa vie aussi, à l'âge adulte. Et là, il me semble qu'on a un moment où la question, c'est véritablement la place du corps à l'école. Sinon, ces pratiques, notamment alors de santé mentale, vont perdurer, voire s'accentuer.
À l'école et même au-delà, on a notre auditrice précédente qui nous parle de challenges sportifs, on les voit arriver, les challenges sportifs, on les voit sur Instagram, etc., on les voit sur les réseaux sociaux, on voit bien quels sont les groupes qui marchent, on voit arriver aussi d'ailleurs parfois la tendance masculiniste et toutes ces choses-là, et donc la pression, y compris des gamins qui sont en classe, elle est là aussi, elle est là énormément, donc il n'y a pas que la pression du prof de PS aujourd'hui, Charles Pétain. En gros, je me demande si en effet les pratiques ont changé, les profs sont plus les mêmes, mais les injonctions au corps chez les gamins sont évidemment très différentes et peut-être même encore pires en fait.
Bah, l'injonction à la performance, elle demeure et elle domine un peu partout. Par exemple, les applications de qui permettent de recueillir les données, notamment lorsqu'on fait du sport, ça va pas dans le sens d'un apaisement dans le rapport à soi et dans la recherche de plaisir qui serait décorrélé de la performance.
Au point qu'il y en a, paraît-il, qui donnent leur appli à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire monter leur performance et que du coup...
Les Strava jockey.
Exactement, les Strava jockey, on appelle ça. Exactement, ouais. Pardon, je vous ai interrompu, Claire Frépin.
Voilà. Donc, il y a un effet aussi pervers de cette injonction à la performance. Et pareil, moi, je reçois des patients qui se sentent en fait obligés ou presque prisonniers de cette injonction à montrer, montrer qu'on fait du sport, alors qu'en fait,
on n'a pas envie.
On n'a pas envie, on n'aime pas ça. L'injonction à participer à des challenges sportifs aussi pour exister, pour mettre quelque chose en avant. Et finalement, la question de plaisir, quand je leur pose la question, elle n'est pas là.
Ça existe encore, ça, au sein de l'entreprise, par exemple? J'ai l'impression que c'est très années 80 ou années 90. Ça existe encore ou pas?
Quoi exactement?
L'idée des challenges sportifs communs ou du team building où tous courir en même temps. Ça existe encore.
Et là aussi, peut se rejouer cette question des traumatismes. Parce qu'on est aussi choisi... on intègre aussi une équipe, on est aussi choisi en entreprise.
Après, ce que vous avez souligné, excusez-moi.
Je vous en prie.
Vous avez parlé du masculinisme. Aujourd'hui, effectivement, on reste sur le culte de la performance. Ouais. Et même plus, on est sur une recherche presque de perfection un peu infinie du corps. Et on a un exemple assez caractéristique. C'est le boom au niveau des inscriptions dans la salle de musculation. Et, très jeune, chez les adolescents, davantage les garçons. Ça dit beaucoup de notre société, du rapport au corps de ces jeunes, qui aussi, c'est ce qu'on appelle l'extimité. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en scène leur corps, une part de leur intime dans les réseaux sociaux, donc par le virtuel et aussi parfois par les filtres. Et pour autant, lorsqu'ils reviennent dans le réel, dans un cours de PS, c'est plus difficile. Donc il y a un décalage aussi qui se crée actuellement. Donc la question aussi qu'il faut poser, je pense, c'est que dans ce rapport à la performance aussi, qui a ce rapport à la performance? On est quand même sur un public particulier, davantage les hommes, davantage CSP+, milieu urbain, même s'il y a une démocratisation. Il faut quand même savoir que l'école aussi subit encore des inégalités d'accès à la pratique sportive en fonction du genre, du milieu social, je disais. Et de fait, ces pratiques peut-être dont on parle, elles sont exacerbées dans certains établissements scolaires. Et ce qu'on peut voir peut-être de manière un peu médiatique, vous parlez de Thibault Inchep, c'est pas non plus la réalité, le quotidien de tous les jeunes.
C'est intéressant, Cécilia DRC, parce qu'il nous dit, Guillaume Ditch, que effectivement c'est surtout les hommes, et je vois bien l'injonction des hommes effectivement en allant sur le site de Thibault Inchep. Moi, c'est les femmes que j'ai retenues de votre documentaire, en fait.
Oui, en tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, ça raconte aussi beaucoup de choses sur la construction du genre. Je me permets juste de rebondir par rapport à ce que disait l'auditeur de tout à l'heure par WhatsApp, parce que c'est marrant, parce que moi, mon expérience, justement, elle me place plutôt à l'endroit de la solidarité avec les mauvais du fond de la classe qui dormaient pendant les autres cours aussi. Et c'est dans les cours de sport, en fait, où j'ai l'impression d'avoir aussi à créer des liens justement avec ces élèves avec lesquels, du coup, généralement, moi étant plutôt l'intello de la classe qui était nulle en sport mais bonne dans les autres matières, je n'avais pas trop de lien, et c'est des personnes qui m'ont appris en fait que c'était possible de refuser des choses que disait l'autorité, donc le prof à ce moment-là, et était solidaire avec moi quand je me retrouvais face à des situations d'injustice, justement, et je pense que c'est vraiment l'endroit dans lequel j'ai un peu appris la rébellion, quoi. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris que je pouvais décider de aussi dire en fait j'ai pas envie de faire ça, et avoir une voix que eux avaient le courage de temps en temps d'exprimer. Enfin bon, bref, après, toutes les situations sont différentes les unes des autres. Mais en tout cas, en ce qui concerne la construction genrée, évidemment, c'est aussi une grande partie du problème. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, je pense que beaucoup de personnes se mettent à la pratique sportive dans aussi des perspectives de modeler son corps pour correspondre à tel ou... Enfin, en tout cas, globalement, soyons sincères.
Aux critères, aux canons.
Pour des critères grossophobes. Et c'est un vrai souci. Et en fait, moi, j'aimerais bien savoir comment faire de la pratique sportive quelque chose de neutre, qui nous permet d'avoir de la santé et d'avoir un corps qui vieillit bien. Et je pense que c'est ça qu'on devrait réussir à faire comprendre à l'école. Et j'espère effectivement que c'est la mission des profs de sport d'aujourd'hui.
On va la poser la question à Guillaume Ditch dans un instant, mais je voudrais qu'on rejoigne Philippe, qui nous attend depuis un bout de temps au standard. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben, moi, je vais à l'encontre de tout le sport, voilà, le sport. Moi, je suis né asthmatique, donc toute ma petite enfance, je pouvais pas faire de sport, je pouvais pas courir, je pouvais pas nager, je pouvais pas rien faire. Bon, est-ce que ça m'a manqué? Non. J'ai passé toute ma vie sans jamais faire de sport, mais vraiment jamais faire de sport. Je suis au courant d'aucun championnat, je ne suis aucune actualité au sujet du sport. C'est quelque chose vraiment qui m'a toujours échappé, j'ai jamais vraiment fait de sport. Et ce que je peux dire à 65 ans, c'est que eh ben, j'en ai jamais souffert. Voilà, ça m'a jamais manqué. Et comme l'a dit mon médecin encore hier, parce que j'étais en visite pour renouveler quelques ordonnances, je suis en bonne santé, en fait. J'ai un rythme cardiaque de sportif, si c'est pas paradoxal, ça. Et voilà, cette injonction qu'on fait à la sportivité maintenant, je trouve ça tellement ridicule, et je vois tellement ça sous la face commercial dans laquelle nous la vend la société, que ça finit de me dégoûter définitivement du mot sport.
Alors, je ne sais pas si vous allez vous y mettre maintenant, c'est-à-dire. Hein. Vous avez dit que vous aviez 65 ans, vous n'avez pas commencé tout de suite, si ?
Non, à ce stade. De quoi donc ?
De toute façon, vous n'allez pas recommencer tout de suite, Philippe, maintenant, à 65 ans. Qu'est-ce que vous en dites ?
Recommencer quoi ?
Commencer tout de suite. J'allais dire, de toute façon, vous dites, moi, je ne veux plus en faire, mais je n'irai jamais. Mais de toute façon, vous n'allez pas vous y mettre maintenant.
Fait, donc, oui, voilà. Bon, bah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ah,
ouais,
bah, c'est
fait,
pas grave.
Non, moi, je suis en parfaite santé, ça ne m'a jamais manqué. Ah, ouais. Peut-être un petit truc que je conseille au sport, mais c'est des sports d'origine plutôt mentaliste, c'est du tai chi, des choses comme ça. J'ai toujours surveillé mon corps. Je fais le même poids, la même taille qu'à 17 ans d'ailleurs. J'ai pas pris ni perdu quoi que ce soit. Et voilà, c'est cette pression que met le monde autour du sport. Et ça, je trouve ça profondément... Bah, je sais pas, j'ai pas de mots pour ça.
Ben, on a compris.
Ça me dégoûte un peu.
On a entendu ça, Philippe. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai vu de réagir, Guillaume Ditch. J'aimerais bien que vous répondiez aussi, parce que au fond, on va dans la même direction sur ce que disait Cécilia DRC tout à l'heure sur le côté le plaisir du sport doit être un plaisir neutre, en fait. Et quand on dit neutre, ça veut dire dégenrer, ça veut dire enlever de toute forme de considération des vieux, des plus jeunes, des plus gros, des plus minces, etc. Là, on aura vraiment réussi quelque chose.
Ce n'est pas un vœu pieux, en tout cas c'est un objectif. Après il y a la réalité de l'enseignement, mais la lutte contre les stéréotypes notamment, et le sport exacerbe justement par ses croyances aussi masculinistes. Et pour autant, à l'école, c'est le rôle de l'école justement, de lutter contre ces stéréotypes, d'ouvrir les enfants, les adolescents, les élèves à différentes pratiques sportives. C'est ça aussi le rôle d'égalité des chances à travers des activités artistiques, des activités pas simplement l'athlétisme, la performance ou les sports collectifs, des activités d'entretien aussi. On a parlé de musculation. Là, votre auditeur, il dit quelque chose d'important aussi, c'est que je pense, je me permets, mais il y a une forme de confusion entre l'activité physique et le sport.
Ouais, bien sûr.
Là, on voit bien que l'activité physique, c'est adopter un mode de vie actif. C'est pas nécessairement faire un sport qu'on pourrait associer à de la compétition dans un club et une structure. Mais pour autant, on a une évolution quand même des modes de vie, qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps assis qui est plus conséquent chez les jeunes, mais aussi le temps d'écran qui augmente, fait que nos jeunes ont besoin de PES. Il faut quand même savoir que pour certains élèves, notamment de milieux sociaux plus défavorisés, c'est peut-être le seul moment dans la semaine où ces jeunes, ces adolescents vont pratiquer une activité physique et sportive, mais pas simplement bouger, surtout apprendre par leur corps à éventuellement adopter ce mode de vie actif. Donc, j'entends totalement effectivement la nécessité ou non de faire du sport, mais je pense que l'inter aujourd'hui, c'est d'abord un enjeu de santé publique pour les jeunes.
Emmanuel est avec nous. Bonsoir, Emmanuel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Emmanuel.
Oui, j'ai essayé de rassembler mes idées. Pour moi, le sport, c'est la plus parfaite expression de la norme sociale. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, mal. Pendant mes années collège notamment, au niveau de la socialisation que je développais et que je développais pas ou je développais très mal. Et ça a conditionné tout le reste ensuite jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années puisque maintenant j'ai 56 ans. Et c'est resté toujours aussi pesant et toujours aussi douloureux. Vraiment une socialisation qui est mal partie à cause de ça, en fait. C'est-à-dire que comme je ne correspondais pas à cette norme sociale sportive, notamment sport co au collège, etc., ça ne m'intéressait pas, et surtout j'étais pas très bon. J'étais en léger surpoids, à l'époque ça favorisait pas les choses, je sais pas si ça a changé, mais bon. Et du coup ça a vraiment tout fracassé, mais vraiment fracassé. Je disais à la personne que j'ai eue au téléphone, j'ai des amis qui datent de cette époque-là, que je vois encore régulièrement, des amis très forts, ça fait 45 ans maintenant, donc ça fait des longues amitiés, et ça reste entre eux et moi quelque chose de... Il y a une faille, en fait, qui est entre nous, c'est-à-dire que eux faisaient du sport, on s'est connus à cet âge-là, on continuait à en faire, et quand on se voit aujourd'hui, il reste cette espèce de dit, non dit, de choses cassées. Vraiment, c'est quelque chose. Moi, ça a aussi complètement configuré. Je le disais à votre assistante, enfin la personne que j'ai eue. Mais j'ai eu deux enfants qui ont une scolarité très particulière parce qu'on a beaucoup voyagé, donc ils ont été en instruction en famille très longtemps. Et ça aussi, ça a été un choix en fait par rapport à le rapport à l'école et le rapport à la norme sociale, et notamment le rapport à la norme sociale dans le sport. Vraiment, ça a été quelque chose de terrible.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour votre témoignage. Moi, je trouve ça fou, Claire Pétain, ce qu'on met derrière le sport, en fait. Je sais pas s'il en met pas beaucoup, et peut-être même trop, notre ami auditeur, là, pour le coup, derrière ce moment premier qu'il a l'air d'imaginer, qui était son rapport au sport, mais ça dit quand même quelque chose quand on met autant de charges derrière ça.
Mais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, il y a plein d'émotions qui demeurent, la honte, la culpabilité, le sentiment d'injustice. On voit que ça perdure. C'est très, très difficile de s'en débarrasser. Pour revenir à la question de la constitution des équipes, pourquoi est-ce que c'est un moment qui est tellement marquant et qui va conditionner aussi d'autres expériences? Le rejet social, ça va activer les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Donc, c'est vraiment, ça fait mal. Être rejeté, ça fait mal. C'est une violence morale, ça peut participer d'un harcèlement. Donc en fait, c'est vraiment pas une expérience anodine. Et il peut y avoir ce conditionnement négatif ensuite, qui fait qu'on va être dans... On va associer le sport à quelque chose de forcément négatif, et on va être dans l'évitement à l'âge adulte. Et c'est normal de vouloir, quand on a des enfants, soit faire en sorte qu'ils ne revivent pas cette expérience-là, parce qu'on sait à quel point c'est marquant et à quel point on peut vivre avec, et ça va vraiment être un peu comme un poison aussi. Empoisonne la vie.
Il ne reste pas beaucoup de temps, ça empoisonne la vie, dites-vous. Il ne reste pas beaucoup de temps, on a un peu de temps pour vous, Géraldine. Vous êtes à Lyon, bonsoir.
Bonsoir, merci de répondre à ma question, même au dernier moment. Alors, je suis très surprise parce que toute l'émission n'en a pas parlé, mais on ne vous choisit pas non plus parce que vous êtes une fille. On choisit les garçons en premier, les filles en dernier. Je ne parle pas des cours où on joue au foot et on dit aux filles d'aller faire autre chose, parce que c'est encore le cas, ma fille il y a 2 ans. Ça s'est passé comme ça en EPS. Je suis sportive, je l'ai toujours été. Et c'est un stigmate, effectivement, de se dire qu'on ne voit les femmes qu'à travers le fitness. Et quand on dit qu'elles font du sport, c'est qu'elles vont à la salle. On fait de la compète, on fait plein de choses. Est-ce que vous pourriez évoquer au moins ce sujet-là pour la fin?
Eh bien, écoutez, évoquons ce sujet-là pour la fin. Géraldine, merci beaucoup. Guillaume Ditch, quand on apprend à être prof, moi, j'ai l'impression que c'est la première chose qu'on devrait vous dire, en fait. Est-ce que ça existe, ça, désormais, dans les cours de PS?
Bien sûr, bien sûr. La sociologie du genre, la question, justement, des discriminations, c'est bien sûr un élément très important. Sauf que la réalité, l'auditeur précédent l'a dit, c'est que le sport est le reflet de la société. Aujourd'hui en France, les inégalités sont marquées en fonction d'un milieu social et en fonction du genre. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent en 6e à 11 ans, qui sont marqués par leur socialisation primaire, donc familiale, leurs parents, par le fait que le père transmette davantage le goût pour le sport et la mère davantage pour les littératures. Et ça rejaillit, ça se reproduit à l'école. Donc, bien sûr qu'il faut combattre ces inégalités et surtout ces pratiques de discrimination.
On arrive à la fin, je voudrais citer Séverine sur WhatsApp qui dit « Traumatisée du sport, moi j'arrivais jamais à sauter le cheval d'Arçon » et j'ai envie de dire « Team Séverine ». Merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup Cécilia DRC, votre documentaire s'appelle « Niveau zéro », Histoire de nul en sport, c'est disponible sur le site de Mediapart. Merci à tous.